on en parle.
Tension.
Incompréhension.
Addiction.
Évolution.
Explication. On en parle.
L'émission qui décrypte les phénomènes de société au sein de la jeunesse.
Tous les jeudis de 11h à 11h45
sur LFM. Sur LFM.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mario, il est 11h pile sur LFM et vous écoutez On en parle, votre émission hebdomadaire du jeudi qui se consacre aux thématiques liées à la jeunesse. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, on va parler de la crise sanitaire et plus précisément du rôle, de l'impact, des conséquences qu'elle a engendrées concernant les relations amoureuses, concernant les adolescents, alors que nous sommes déjà à 4 jours de la Saint-Valentin. Depuis 2 ans, nous sommes tous confrontés au Covid-19, à des confinements, des gestes barrières, de nombreuses restrictions sanitaires, une crise sans précédent au niveau politique, économique, culturel, mais aussi sur le plan de nos interactions. Et concernant la jeune génération, il y a beaucoup à dire. Près d'un jeune sur deux a vu sa vie sentimentale affectée par les contraintes liées au Covid-19, selon une enquête menée par Odoxa fin novembre 2021. Le thème du célibat, de la difficulté de trouver l'âme sœur en confinement et des relations sexuelles impossibles est devenu l'un des sujets de préoccupation majeure des 15-30 ans depuis l'apparition de la pandémie. Alors où en est-on aujourd'hui? Trouver l'amour est-il encore possible pour celles et ceux qui ont vu leur vie amoureuse entre parenthèses en suspens? On en parle ce matin avec Laura Lapierre. Bonjour Laura.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment allez-vous avant tout?
Eh bien écoutez, moi ça va plutôt bien.
Très bien.
Et
alors,
vous?
Ça va, merci beaucoup, ça va. Alors en ce qui vous concerne, vous avez un CV plutôt fourni puisque vous êtes coach en séduction, thérapeute avec une attention particulière sur l'art thérapie, la sexothérapie, c'est ça?
Surtout la sexothérapie, oui.
La sexothérapie. Et vous avez été, avant tout ça, avocate au barreau de Paris.
En effet, comme quoi le droit mène à tout à condition d'en sortir.
Tout à fait, c'est ça, absolument. Alors, merci de votre présence ce matin. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Laura, donc le 17 mars 2020, le couperet tombe. Cette date marque en effet le début du premier confinement, une période délicate pour tout le monde, contraint à de rares déplacements, une réduction de contacts humains. Autrement dit, la distanciation sociale s'est rapidement imposée et pour les jeunes, ça a été le drame. Une phase délicate qui les a contraints à trouver de nouvelles méthodes pour communiquer, que ce soit pour se découvrir de nouvelles amitiés ou aboutir à des démarches amoureuses. Alors Laura, ma première question, c'est selon vous, de quelle manière l'apparition de la crise sanitaire a-t-elle perturbé les relations amoureuses chez les jeunes? Comment vous avez observé tout ça à partir de mars 2020?
Alors, en réalité, je pense qu'il y a vraiment deux phases qu'il faut distinguer. La première phase, qui est celle du premier confinement, qui a été vraiment un confinement total, pur et dur, mmh. où du jour au lendemain, effectivement, les jeunes se sont retrouvés sans plus aucune interaction sociale.
Ouais.
Et le reste du temps de confinement de la pandémie, le confinement 2, 3, 4, qui ont été des confinements beaucoup plus soft et durant lesquels les jeunes ont pu développer d'autres façons de se retrouver, de se rencontrer. Donc là où vraiment il y a eu un impact dur sur les jeunes, à mon sens, ça a été lors de ce tout premier confinement où du jour au lendemain, ils se sont retrouvés enfermés la plupart du temps avec leurs parents ou alors seuls ou bien alors avec un partenaire alors qu'ils n'avaient pas forcément l'intention de s'installer si vite ensemble.
Ouais. Donc ça a été effectivement assez particulier, notamment quand on se retrouve avec ses parents. L'adolescence, c'est une période en soi charnière et délicate, donc en temps normal. Et pour beaucoup d'adolescents, l'apparition de la pandémie a créé le sentiment d'avoir perdu une année de vie, une année d'existence, si on peut dire. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Laura?
Alors, ce n'est pas exactement le retour que moi j'en ai eu ouais. de ma patientèle adolescente et jeune adulte. Mmh. Encore une fois, autant effectivement le premier confinement a été vécu comme un emprisonnement et un moment hors du temps, autant ce qui s'est passé par la suite a été plutôt vécu comme une période où il a fallu s'adapter, faire preuve ouais. de créativité.
C'est ça, créativité. Alors, on va en parler justement tout à l'heure. Alors, justement, parlons de vos patients. Est-ce que vos patients, donc des jeunes patients sont venus vous voir, vous consulter et faire part de leur inquiétude justement par rapport au fait de faire le premier pas? Quelles ont été leurs inquiétudes et comment vous avez identifié justement ces changements comportementaux?
Alors, faire le premier pas a toujours été quelque chose de difficile pour les adolescents et les jeunes adultes. Et lorsqu'ils viennent nous consulter, que ce soit en contexte de pandémie ou hors contexte de pandémie, c'est toujours la même problématique. C'est la peur du regard de l'autre, la peur du jugement, la peur de se lancer tout simplement.
Ouais.
En revanche, ce qui est directement lié à la pandémie, c'est quand les jeunes sont venus me consulter pour apprendre à gérer la construction d'une relation où du jour au lendemain on peut se retrouver à ne plus se voir ou au contraire du jour au lendemain on peut se retrouver enfermé l'un avec l'autre. C'est cette gestion-là qui pose problème.
D'accord, donc soit de ne plus se voir ou rester enfermé avec l'un avec l'autre. Et là, évidemment, quand on est notamment enfermé l'un avec l'autre, ça peut aussi créer des complications. Entendu. Alors, face à la restriction de déplacement à l'époque et la fermeture de lieux propices à sociabiliser comme les boîtes de nuit actuellement, pour espérer trouver sa moitié, nos jeunes ont très vite innové pour remédier à ce dilemme avec l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, des applications de messagerie instantanée ou encore des applications, sites de rencontres. En d'autres termes, la séduction virtuelle, l'amour numérique ont pris le dessus. Mais au fond, quand on y pense, Laura, est-ce que c'est pas... En fait, on peut simplement se dire que la rencontre amoureuse était déjà digitalisée auparavant. Alors, est-ce que selon vous, la Covid-19 a vraiment joué un rôle crucial dans l'essor de l'amour 2.0, ou est-ce que ça a simplement fait que confirmer ce qui se faisait déjà avant ?
Oui, je crois qu'il faut beaucoup relativiser, parce qu'en réalité, effectivement, la rencontre amoureuse sur un support dématérialisé au départ, c'était déjà quelque chose de très répandu, en particulier chez nos jeunes.
Ouais.
L'utilisation d'applications de type Tinder était extrêmement déjà démocratisée. Donc la pandémie, pour ça, n'a pas changé grand-chose. En revanche, la pandémie a davantage eu un impact sur la vision qu'ils ont eux-mêmes de leur propre corps. Parce que comme de facto ils ont été obligés de continuer beaucoup plus longtemps à draguer par internet sans pouvoir se rencontrer, beaucoup ont été amenés à appréhender de plus en plus le moment où ils allaient rencontrer en vrai l'autre personne.
C'est ça, en fait, parce que bon, quand on a des applications de rencontre, on peut très bien mettre des corps évidemment parfaits, et évidemment face à la réalité des choses, c'est autre chose.
Il y a ça, et surtout il y a le fait que pendant la drague, on a tendance petit à petit à enjoliver un peu, et même si au départ on met une photo qui relativement proche de la réalité, il est très possible que quand même après, lorsqu'on parle de soi, on ait tendance à en rajouter un peu sur le côté sportif, ou sur le côté bon danseur, etc.
C'est comme un CV, on essaye de l'enjoliver au fur et à mesure.
Bah, c'est du marketing, la drague.
Tout à fait, effectivement. C'est plus que, c'est à la fois de l'humain et du marketing. Ouais. Alors, quelle est votre opinion d'ailleurs sur tout cet aspect virtuel ? Est-ce que pour vous l'amour se rattache aujourd'hui à un algorithme, ou est-ce que vous faites toujours confiance au cœur humain et donc à ce qu'on appelle tout simplement le désir ?
Alors, le coup de l'algorithme, ça a donné lieu notamment à des émissions de télé-réalité qui sont assez amusantes à regarder, non pas parce qu'elles renseignent sur l'amour, mais parce qu'elles donnent une vision assez topique de la vie en société actuelle. Mais non, bien sûr que non, le rapport amoureux est un rapport qui est interpersonnel, donc c'est quelque chose qui dépend absolument de qui on est et de qui on a en face de soi et de quel moment de la vie on se trouve. Donc il n'y a pas de formule magique. Personnellement, ce que je recommande lorsque j'accompagne des personnes en coaching séduction et notamment en coaching sur internet, c'est le plus rapidement possible, sauf en cas de confinement évidemment, de rencontrer en vrai l'autre personne. Rien ne vaut la réalité, la confrontation à la réalité. Et après tout d'ailleurs, c'est ce qu'on veut, on veut quelqu'un en vrai. Sinon, on se contenterait de notre téléphone dans le lit.
C'est vrai. Voilà, c'est une bonne analyse pour le coup. Et c'est vrai que voilà, le but, c'est quand même de voir un peu le produit en vrai. C'est un peu ça.
Exactement, on veut goûter.
C'est ça. Alors, on va tout de suite confronter votre ressenti à un micro-trottoir que j'ai réalisé en amont de l'émission, dans lequel j'ai demandé à quelques adolescents s'il était encore possible pour eux de séduire ou faire des rencontres et de draguer malgré le contexte sanitaire. Quelle était leur préférence entre rencontres virtuelles et rencontres physiques. Donc je vous laisse vous concentrer, on se retrouve dans quelques instants pour que vous puissiez réagir.
Parfait.
Je pense que c'est toujours possible de rencontrer des gens, notamment à travers tout ce qui est application de rencontres. Ça fait plus d'un an que je suis avec mon compagnon qui est aujourd'hui mon mari. Donc, en fait, on s'était rencontrés pendant le premier confinement à travers les applications. Je pense qu'il est tout à fait possible de rencontrer des gens. Il vient de me faire draguer il y a littéralement 5 minutes. Donc oui, je pense que c'est tout à fait encore possible de draguer. Faut juste de la volonté. Faut pas être timide, on va dire. Faut y aller quand il y a quelqu'un qui nous plaît, lui parler directement.
Alors moi, de base, je suis bien plus virtuel, question d'habitude. Question de facilité, mais je préfère franchement rencontrer des gens en vrai. Bon, là c'est très difficile niveau club, tout ça. Après aussi question de timidité, question de gênance, etc. Là maintenant aujourd'hui, toutes les conditions, que ce soit Covid ou autre chose, les travails, les disponibilités des deux personnes, c'est plus facile en virtuel et c'est ce qui un peu arrange tout le monde. Mais bien sûr, ça implique aussi des risques et des contraintes qu'il n'y aurait pas avec des rencontres réelles.
Du coup, comme je suis en classe préparatoire, je suis resté en présentiel. J'ai l'impression que ça reste quand même possible. Personnellement, j'ai continué à voir des amis, à avoir quand même des relations sociales. Après, effectivement, c'est sans doute plus compliqué, mais bon, après, je pense que c'est aussi une autre manière de voir du coup le couple, parce que forcément, il y a un peu la distance, quoi. Je pense que pour construire un truc plus durable, pour moi, ça part d'une relation qui évolue et pas d'un truc virtuel.
Alors, en respectant les gestes barrières, je pense pas, mais oui, c'est toujours possible. Les bars sont ouverts, il y a toujours des soirées, on continue à rencontrer des gens malgré tout. A priori, je préfère quand même les rencontres physiques. Après, c'est sûr que la période qu'on vient de vivre, elle a pas facilité ça. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis sur Tinder ou par le biais des réseaux sociaux. Mais je pense qu'on préfère tous, de toute manière, faire des vraies rencontres dans le monde réel, quoi. Le premier confinement, je pense que ça a été une période de retour à soi-même pour tout le monde, parce que pour le coup vraiment personne sortait à ce moment-là, donc là il n'a pas été tellement question de ça. Depuis qu'on a quand même un peu fait un retour à la vie sociale, c'est revenu, je pense.
Oui, on peut toujours draguer. Après, maintenant il y a toujours maintenant ce protocole de sanitaire. On peut très bien draguer une personne en contactant le virus. Peut-être pas la bonne personne qui partage nos mêmes valeurs et nos mêmes principes. Si c'est pas la bonne personne, n'est pas ici en France, on peut très bien la rencontrer dans d'autres, on peut très bien la rencontrer ailleurs. Pas pressé pour me mettre en couple, je trouverai la bonne personne. Après, bien sûr, il faudrait que la personne et le monde on est accordé. Il faut laisser le temps faire son œuvre, quoi. Le seul conseil, c'est d'attendre et de vivre pleinement sa vie, et puis voilà, quoi.
Alors, nous sommes de retour, donc après ce micro-trottoir qui vous a fait sourire, Laura. Donc, dites-moi tout, qu'est-ce que vous en avez retenu, qu'est-ce que vous a marqué, frappé. La parole est à vous.
Eh bien, tout d'abord, que l'amour, visiblement, sont les jeunes qui en parlent le mieux, parce que quand on écoute toutes ces interventions, ils s'accordent tous à dire que ce qui est bien, c'est quand même la relation dans la vraie vie, c'est la personne en face. Donc je ne me fais pas beaucoup de soucis en termes de relations amoureuses pour nos jeunes. Par ailleurs, ils ont également souligné ce que j'expliquais en début d'émission, à savoir que cette période de pandémie, clairement, elle a connu deux époques. La première, avec ce confinement très dur où on ne voyait plus personne, ou alors on voyait trop les mêmes personnes. Et puis la deuxième partie où les jeunes ont réussi à continuer à avoir une vie sociale et à se rencontrer. Moi, je l'ai vu autour de moi, que ce soit dans ma patientèle ou d'une manière plus générale. Il y a eu des fêtes, les gens se rencontraient, il y avait des dîners, il y a des bars qui ont été ouverts, on allait au restaurant. Donc, les jeunes ont pu, à ce moment-là, avoir une vie sociale, certes, peut-être moins débridée qu'à d'autres moments, mais enfin bon, l'été, les boîtes de nuit ont été rouvertes, par exemple.
Ouais.
Donc, ça, je pense que la deuxième partie de la pandémie a, en fait, eu peu d'impact sur la relation sociale et amoureuse des jeunes.
Entendu. Donc, en quoi, il y a pas forcément... Il y a de l'espoir, quoi. Voilà, il y a pas forcément de désespoir et de désespérer justement pour trouver son âme sœur. Alors, on va marquer à présent une courte pause musicale, Laura, le temps de s'écouter My Boo de Usher et Alicia Keys. On se retrouve juste après pour que vous puissiez, Laura Lapierre, prodiguer à nos auditeurs et auditrices quelques conseils à l'approche de la Saint-Valentin pour soit trouver la flamme ou la maintenir, puisque comme on en parlait, on peut très bien rencontrer une personne, mais le plus dur, c'est de rester ensemble. Donc, toujours en cette période de crise sanitaire qui a été révélatrice aussi bien de nombreux coups de foudre comme de nombreuses rupture malheureusement, donc on y viendra en seconde partie de l'émission. Restez bien calés sur LFM et à tout de suite.
LFM Radio 95.5.
There's always that one person that will always have your heart. You never see it coming cause you're blinded from the start. Know that you're that one for me. It's clear for everyone to see. Ooh baby.
Yeah. You gotta rock and wait in this one. Come on.
See, I don't know about y'all, but I know about us. And
it's the only way we know how to rock.
I don't know about y'all, but I know about us. And
it's the only way we know how to rock.
Do you remember, girl? I was the one who gave you your first kiss. Cause I remember, girl. I was the one who said, put your lips like this. Even before all the fame and people screaming your name. Girl, I was there, and you were my baby. It started when we were younger, you were mine. Now another brother's taking over, but it's still in your eyes. Even though we used to argue, it's alright.
It's alright, girl, that's okay.
I know we haven't seen each other.
remember, boy, the moment I knew you were the one I could spend my life with. Even before all the baby people screaming your name, I was there, and you were my baby.
It started when we were never, you were my now another brother's taking over, but it's still in your
Nous sommes de retour pour la seconde partie de l'émission dans laquelle nous nous intéressons ce matin aux relations amoureuses chez les jeunes dans le cadre de la Saint-Valentin, une jeunesse qui a été soumise à rude épreuve face à la pandémie, presque mise sous cloche il y a déjà 2 ans de cela et qui tente bien que mal de s'en remettre aujourd'hui. Alors comment parvenir à exprimer son désir pour autrui, comment vaincre sa timidité, comment donner de l'espoir à celles et ceux qui n'y croient plus? On en parle ce matin avec Laura Lapierre, coach en séduction et thérapeute avec un accent sur la sexothérapie.
C'est exactement ça.
Alors Laura, s'il y a bien une chose qui résume à elle toute seule cette crise sanitaire que nous traversons, c'est le masque. Le masque parce qu'il est omniprésent dans notre quotidien, impossible de sortir sans pour se déplacer aussi bien à l'extérieur qu'en intérieur, même si bon là actuellement, du moins en Yvelines, il n'est plus obligatoire à l'extérieur. Et pour tout le monde, c'est devenu un défi de taille à relever, notamment quand il s'agit de vouloir trouver le grand amour. Laura, je vais vous soumettre tout de suite à un second micro-trottoir donc, que j'ai fait en amont de l'émission et dans lequel cette fois-ci j'ai demandé aux jeunes que vous avez entendus en première partie s'il était encore possible de draguer, séduire malgré cette barrière, cette barrière sociale. Voilà, comprendre si le masque pouvait se révéler être une arme de séduction, inciter à s'intéresser à autre chose que le visage. Donc je vous laisse vous concentrer à nouveau, on se retrouve juste après pour en discuter.
Il y a le masque, on va se dire est-ce que cette personne est vraiment comme j'imagine ou pas.
Moi-même j'ai des masques disons personnalisés etc, mais parfois je trouve qu'un classique plus simple, normal, ça soit mieux adapté.
Oui bien sûr, après malgré les masques, c'est vrai qu'on n'a pas nos masques tout le temps, par exemple là en extérieur on n'a pas nos masques, si par exemple on est dans un bar ou un restaurant on n'a pas nos masques. C'est vrai que dans un endroit clos, quand on voit quelqu'un, c'est difficile de savoir, enfin dans les endroits où les masques sont obligatoires, c'est difficile de savoir si la personne nous plaît physiquement ou pas. Après c'est encore une fois, c'est pas parce que, moi je dis toujours c'est pas le physique qui compte, c'est pas parce que la personne elle est jolie ou c'est pas parce que la personne nous attire physiquement que après quand on la connaît ça va forcément fonctionner. Donc le physique n'est pas quelque chose sur laquelle moi je me focalise entièrement. Après comme j'ai dit, il y a des endroits où on n'est pas, où il n'y a pas des masques, comme par exemple à l'extérieur où on peut tout à fait tomber sur une personne qui nous plaît physiquement, aller lui parler, enfin ça c'est si on a le courage d'aller lui parler, aller l'aborder.
Je peux draguer une personne qui a un masque ou qui a pas de masque, ça change rien dans ma vie moi.
En fait le masque dans les endroits où on rencontre du monde, on le porte pas Enfin, bon là les boîtes sont fermées, mais elles vont bientôt réouvrir, mais elles avaient quand même ouvert l'été dernier. Dans les bars, on les met pas, donc pour moi ça a jamais été vraiment un problème. Je pense que ça gêne pas plus que ça, parce que bon, en plus, à mon avis, il y a aussi beaucoup une part de la séduction qui passe dans le regard, et le masque n'a jamais empêché les regards, donc voilà. Moi j'aime beaucoup la mode, donc je m'intéresse toujours un peu à la façon dont les gens sont habillés, mais je suis plus dans le relationnel, on va dire.
Bah, ça peut être un bonus pour ceux qui sont moches. Mais là, je rigole, mais oui, c'est sûr que ça peut être un petit peu un frein, mais bon, d'un autre côté, dès qu'on parle, etc., quand on est en extérieur, bon, on peut quand même l'enlever, donc je pense que ça reste quand même possible, quoi. Je dirais, je sais pas, le visage ou la silhouette en général.
Okay. Je m'arrête là, je vais m'enfoncer.
Alors, donc là, si un micro-trottoir...
Il y en a un qui est honnête, moi.
C'est ça, voilà, il y en a un, ouais, qui dit les choses, voilà, il y va franco, donc voilà, il fait pas dans la demi-mesure, c'est ça qu'on peut dire. Alors effectivement, donc elle a un micro-trottoir aussi, voilà, un peu riche en rebondissements sur cette question, cette fois, du masque. Alors selon vous, Laura, par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à votre propre analyse, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire abstraction du masque? Et si oui, comment on peut s'y prendre?
Alors... Il y a plusieurs choses à savoir et qui ont d'ailleurs été dites par vos auditeurs dans ce micro-trottoir. La première chose, c'est que la séduction, au départ, c'est essentiellement par le regard qu'elle passe. Et le port du masque n'entrave pas effectivement ces jeux de regard et même au contraire va souligner le regard. Donc pour ça, le port du masque n'est pas une gêne et peut-être même un atout. Ensuite, la séduction s'attache à la silhouette en général. Là encore, le masque... présent ou absent, pas d'impact. Cependant, et ça c'est dans la deuxième phase, la séduction et même le rapport humain en général passe énormément par l'expression d'émotions et notamment par l'expression d'émotions en utilisant les muscles du visage. Il y a d'ailleurs un travail remarquable qui a été fait par des chercheurs américains qui ont constitué à la demande du Dalai Lama un atlas des émotions. Vous pouvez trouver ça sur internet assez facilement. Ils ont analysé tous les muscles du visage et les liens qu'il y avait entre les émotions. Et ensuite, ils ont comparé entre les différentes populations mondiales et il s'avère que tous les êtres humains bougent les mêmes muscles pour exprimer les mêmes émotions. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, le port du masque est très ennuyeux parce que on ne voit pas ces mouvements du visage. Ouais. On ne voit pas le sourire, on ne voit pas la moue, on ne voit pas la bouche qui se décroche et tout ça. Donc ça peut être très, très ennuyeux à ce niveau-là. Maintenant... encore une fois, il y en a plusieurs qui ont quand même été assez honnêtes dans leur intervention, parce que il est vrai que il y a des tas d'endroits où on ne porte pas le masque. Ouais. Donc, tombons assez rapidement les masques. D'une part, en passant le plus rapidement possible de la rencontre virtuelle à la rencontre en réel, et dans la rencontre en réel, se voir à un endroit où on peut retirer son masque, même si c'est à une certaine distance l'un de l'autre, parce que ça va permettre effectivement d'avoir recours à toute cette gestuelle et cette expression du visage qui est indispensable à la séduction.
Alors déjà, le regard, donc en soi, c'est vraiment l'objet numéro un, c'est le regard et le miroir de l'âme, comme je ne disais plus Lamartine, je crois, pour la petite référence littéraire. Et comme vous l'avez bien souligné, en soi, c'est vrai que le sourire, c'est l'aspect, le deuxième aspect le plus important. Et je ne sais pas, il y a combien de muscles, ce qu'on sait, sur le visage?
Alors, moi, je ne saurais pas vous dire exactement, ouais. Mais il y en a un certain nombre de dizaines, ouais. Ça c'est sûr. Je veux juste rebondir à ce que vous disiez au sujet du sourire, parce que pour le sourire, c'est assez intéressant. Le sourire a toujours été important parce que quand on sourit, on montre les dents, et que des dents saines, c'est génétiquement un bon signe. N'oublions jamais que la séduction, au départ, c'est mère nature qui veut qu'on procrée, qu'on perpétue l'espèce. Donc on cherche des partenaires qui sont en bonne santé. Au fur et à mesure de l'évolution sociale et aussi de l'évolution de notre vie sanitaire, justement, nous avons tous maintenant peu ou prou de bonnes dents. Et en fait, le sourire maintenant est devenu très important dans la séduction féminine, alors que les hommes, eux, ce qui va faire qu'ils attirent les femmes, c'est pas tellement leur sourire, mais c'est plutôt leur air mystérieux. En gros, faites la gueule, ça attire les filles.
Ah bon, bon.
Encore une fois, ce sont évidemment des généralités que je souligne là, mais qui sont assez intéressantes. Et pourquoi les femmes aiment les hommes mystérieux, toujours d'après ces recherches scientifiques très sérieuses qui ont été faites cette fois-ci au Canada, c'est parce que ça a un côté rassurant, protecteur, sérieux.
D'accord. Ah bah je vais en prendre note. Je vais en prendre note personnellement à titre personnel. Bah c'est comme ça j'apprends aussi des choses. Donc bah merci beaucoup Laura pour ces conseils à nos auditeurs et à moi-même. Donc j'ai essayé d'en tirer profit à l'avenir. Alors à présent Laura, quel conseil avez-vous envie de donner à la jeune génération, à celles et ceux qui ont l'impression de voir leur vie amoureuse défiler sous leurs yeux et qui n'y croient plus, qui ne croient plus du tout en l'amour, au point de passer une annonce comme celle-ci que vous allez entendre tout de suite.
Arrive bientôt, les célibataires, sortez! Je cherche un crush pour passer la Saint-Valentin, s'il vous plaît! Un petit crush, mon numéro!
Alors. Donc c'est assez original, mais voilà, pour soit éviter d'en arriver là, ou bien, voilà, en tout cas.
Ça peut être efficace,
c'est
hein!
Ça, voilà, passer par ce subterfuge. Quels sont vos conseils donc aujourd'hui pour voilà permettre à celles et ceux de prendre confiance en eux et vraiment d'aller voilà franco quoi comme on l'entendait justement dans le premier micro trottoir.
Bah avant toute chose c'est déjà de cesser de partir avec des croyances, des idées toutes faites sur ce que l'autre le partenaire potentiel attend, veut, exige, demande. Mmh. On n'en sait rien. Et il me paraît assez improbable que la personne que l'on est ne corresponde à personne d'autre sur Terre. Donc ça, c'est la première chose. C'est y aller en se disant, ben, y a quelqu'un pour moi. Et moi, je suis là aussi pour quelqu'un. Cesser de se laisser paralyser par des peurs et cesser aussi de projeter sur l'autre ses pensées. Ce qu'on appelle dans notre jargon la projection, la lecture de pensée, c'est de toute façon, là je vois bien dans ses yeux qu'il pense ceci ou il pense cela de moi. On n'en sait rien. Donc la seule manière de savoir ce qu'il pense de vous, eh bien, c'est d'aller lui demander, donc d'entrer en contact, de parler. La séduction, c'est quelque chose qui est à la fois très léger, c'est un jeu, et en même temps, c'est un investissement. Donc dans lequel, quand on parle d'investissement, ça veut dire qu'il faut mettre une grande part quand même d'honnêteté. Parce que sinon, si vous séduisez sur des bases qui sont fausses, mmh. Bah vous n'allez pas pouvoir concrétiser longtemps. Hein. Si vous arrivez à concrétiser, vous ne tiendrez jamais sur la distance après. Parce que quand on dit, par exemple, je suis un prix Nobel en mathématiques, à mon avis, ça va être assez vite éventé, cette histoire.
Donc, ça, il vaut mieux voilà, faire preuve d'honnêteté, et, parce que c'est une question de marathon, en fait. Une sorte de marathon, en fait. C'est
bah, ça dépend de ce qu'on cherche, mais mmh. A priori, comme j'aime bien dire, chaque grande histoire d'amour a toujours commencé par un coup d'un soir. Mmh. Donc, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait jamais si ça va être une histoire qui fonctionne sur la durée ou qui va être brève. Mais évidemment, le mieux, c'est quand même de tabler sur la durée. Et si on veut tabler sur la durée, eh ben effectivement, d'être franc, d'être honnête dans ce qu'on veut. Ça n'interdit pas d'enjoliver un petit peu, tant que la base, elle est toujours là. Et aussi, ce qui est très important, c'est de ne pas renoncer à ce qu'on est et à ses propres besoins, sous prétexte de vouloir plaire à l'autre. Hein. Si on n'est pas du tout quelqu'un d'aventurier et qu'on tombe sur une personne qui, elle, ne parle que de voyage, d'expédition, ne pas faire croire à cette personne qu'on aime ça aussi.
D'accord, donc ne pas surjouer, ne pas aussi faire semblant, quoi.
Exactement.
Très bien. Et dès lors qu'on arrive justement à trouver son âme sœur, comment Laura parvenir à engager une relation saine et durable? Et notamment, quand on parle de relation saine et durable, bah, on pense évidemment bah, au premier soir, enfin en tout cas à la première fois notamment, on pense aussi voilà, à la notion de consentement, donc écouter son partenaire. Quels sont vos conseils là aussi sur cette... justement phase de mieux se connaître et notamment mieux connaître son corps.
Alors la base de toute relation, qu'elle soit à long terme ou à court terme, c'est toujours la confiance. On ne dort pas avec son ennemi. Donc il faut une confiance mutuelle et cette confiance mutuelle, elle ne s'obtient que si effectivement on écoute l'autre et on exprime à l'autre ce qu'on veut soi-même, de façon très claire. Pas de non-dit, pas encore une fois de projection, de lecture de pensée, mais oser être vraiment soi et demander à l'autre si on a bien compris ce que l'autre veut. Mmh. Quand il y a un doute, eh ben, il ne faut pas hésiter à reformuler et à redemander.
Parce que ça fait partie de ces causes-là, j'imagine que lorsque vous avez des jeunes patients, ce sont les principales causes de rupture que vous observez lorsque vous consultez avec des jeunes patients.
Alors, les principales causes de rupture, C'est assez difficile à dire parce que chaque histoire est très, très particulière.
Oui, très personnelle.
Mais si on parle de rupture pour des raisons d'ordre sexuel, ce qui revient le plus souvent, c'est un décalage entre le désir de l'un et la libido de l'autre. Décalage qui, au début de la relation, parce qu'on porte des lunettes roses, on passe par-dessus, on dit ça va s'arranger. Hein, soit celui qui a moins envie s'oblige à faire plus souvent l'amour, soit celui qui a plus envie se dit « bon, bah, je vais lever le pied un petit peu, ça va s'arranger ». Ça ne s'arrange jamais comme ça. Ça peut s'arranger, heureusement, mais pas juste en laissant du temps au temps. Le temps tout seul ne fait rien. Donc, lorsqu'il y a des décalages de libido, il y a une seule chose à faire, c'est en parler ensemble et chercher ensemble, pas forcément les causes de ce décalage de libido, parce que c'est pas toujours très facile, sauf quand on fait appel à un super thérapeute comme moi, par exemple. Non, mais surtout, de quelle manière on peut y remédier ? Qu'est-ce qui va faire que l'autre aura plus envie ou que celui qui a vraiment très très souvent en vie puisse se satisfaire sans aller voir ailleurs et sans importuner tout le temps le partenaire qui est moins en demande.
Donc en un mot, la communication.
Exactement.
Entendu, très bien. Laura, à présent, on va passer à la rubrique M'en parle pas. Le M'en parle pas, c'est une rubrique bien connue de nos auditeurs. Vous allez avoir, donc, après le jingle, vous allez pouvoir nous donner la phrase, l'idée reçue qui vous agace, qui vous insupporte quand il est question, ce matin, donc des jeunes et de la relation amoureuse. Donc une phrase qui ne fait pas sens selon vous, qui empêche justement d'avancer et de croire en tout cas un peu plus en cette fameuse parade amoureuse. Donc je vous dis à tout de suite pour le M'en parle pas.
All you stinky dirty tramps,
shut the fuck up.
All the hoes on his dick,
shut the fuck up.
Alors, Laura, je vous écoute, dites-nous tout. Vous avez été écoutée, t'as été surprise par le générique.
Je ris parce que c'est les paroles que je viens d'entendre,
ouais,
font directement écho à mon m'en parle pas. Parce que moi, mon m'en parle pas, en fait, c'est deux petites phrases.
Ouais.
C'est, la première, c'est les filles, ce qu'elles veulent, c'est des mecs grands et baraqués. Et
ouais,
l'autre petite phrase, c'est « Mais de toute façon, les mecs, tout ce qu'ils veulent, c'est coucher. »
C'est vrai que, voilà, c'est effectivement, c'est une phrase qui revient souvent, effectivement, voilà, qui maintenant est fait un peu rentrer dans le champ commun des idées reçues, tout à fait. Et face à tout ça, qu'est-ce qu'on répond ?
Eh bien, un petit peu ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, à savoir que les généralités, c'est toujours une source d'erreur, et que ce sont des personnes qu'on a en face de soi. C'est pas un mec ou une nana, c'est une personne, et que chacun a son histoire, chacun a sa construction.
Ouais.
Effectivement, il y a des hommes qui ne sont intéressés que par une consommation assidue de sexualité. Effectivement, il y a des femmes qui limitent leur aspiration de séduction à un physique baraqué. Mais c'est très, 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 très loin d'être la généralité. Et des cœurs à prendre, il y en a partout, dans les deux sexes. Et ce serait bien que les cœurs à prendre cessent de partir battus d'avance en se disant « de toute façon, moi, j'intéresse personne », parce que c'est pas vrai.
C'est pas vrai, en tout cas, voilà, il faut s'en donner en tout cas la conviction. Et comme vous le disiez, par rapport aux idées reçues sur les garçons et leur consommation, enfin en tout cas leur envie justement de sexualité. Donc un mot sur les dérives que peut engendrer la pornographie peut-être.
Alors les dérives engendrées par la pornographie, c'est pas tellement une sexualité compulsive, c'est-à-dire une sexualité où on pratique la sexualité parce qu'il faut la pratiquer au-delà même de la satisfaction. Non, le vrai danger pornographique, c'est que quand on regarde un porno, le cerveau reçoit, sans faire le moindre effort, directement des images et des sons, des informations donc, qui sont très fortes et qui provoquent d'énormes décharges d'adrénaline. Et dans la réalité, dans la vraie vie, on n'a jamais autant de décharges d'adrénaline en même temps, en si peu de temps. Hein, le porno, on a directement un gros plan sur un vagin, un gros plan sur une verge dressée. Dans la vraie vie, il va falloir d'abord se déshabiller, il va falloir aller tout doucement vers cet endroit, et donc ça monte plus doucement. Quand on utilise beaucoup la pornographie comme support, notamment de masturbation, eh bien on habitue le cerveau à cette décharge d'adrénaline très forte, et du coup, quand on passe à la vraie vie, eh bien, le cerveau, il dit, mais je suis désolée, mais là, il n'y a pas de quoi envoyer assez d'adrénaline. Donc, ben, il ne va pas y avoir d'érection. Donc, il ne va pas y avoir de sécrétion de cyprine. Donc, il ne va pas y avoir de montée de désir. Et le vrai problème de la pornographie, il est là. Encore une fois, la pornographie, mais c'est comme tout. En consommer un peu avec modération, c'est très bien. Pourquoi pas ? Ça peut amener des idées, etc. Mais trop, eh bien... ça déconnecte complètement de la réalité. Et une dernière chose à propos de la pornographie, parce que ça c'est très 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 important, surtout pour les ados, la pornographie c'est du cinéma. Du cinéma, c'est pas la vraie vie, donc faut pas chercher à reproduire ce qu'on voit dans la pornographie. Hein, c'est comme si on voulait se mettre à voler comme Superman ou imiter un autre héros de chez Marvel. C'est du cinéma, il y a des trucages, il y a un truc. C'est pas vrai, c'est donc ça. Faut pas essayer de faire pareil.
Ouais, je pense qu'il est vraiment nécessaire de mettre un mot dessus, parce qu'on aura, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission, mais voilà, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte, notamment quand il est question aujourd'hui des relations amoureuses chez les jeunes, entre consentement et justement ne pas chercher à imiter justement ce qu'on voit, donc sur tout ce qui est, par rapport à tout ce qui est lié à la pornographie, ça reste toujours un danger chez les jeunes. Pour terminer cette émission, Laura, quels sont vos plans pour la Saint-Valentin?
J'attendais que vous me proposiez quelque chose, Mario.
Ah, bah écoutez, on va pouvoir... Alors écoutez, là, comme ça, j'ai pas d'idée. Mais on va en parler après l'émission, tranquillement. J'ai le temps, je vais d'abord clôturer l'émission pour en parler entre nous en privé. Alors en tout cas, un grand merci, Laura Lapierre, d'avoir participé à cette émission pour...
Je vous en prie, j'étais ravie.
Pour en tout cas en apprendre davantage sur l'évolution des relations amoureuses chez les jeunes. Et en tout cas, en attendant le sortir de cette pandémie, leur permettre de toujours y croire et de toujours profiter de leur jeunesse et de leurs années en tant qu'adolescents pour, en tout cas, découvrir justement des expériences sentimentales et sexuelles, en tout cas, si évidemment tout se passe pour le mieux. Donc un grand merci pour votre analyse, Laura Lapierre. Quant à nous, donc tout d'abord, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pour celles et ceux qui souhaiteraient retrouver cette émission, elle sera disponible sur le site www.lfm-radio.com. Vous retrouverez Alice dès 16h jusqu'à 19h dans le live avec le meilleur de la programmation hip-hop, R&B et les dernières nouveautés à ne pas rater. En attendant, restez bien calés sur LFM, car dans quelques minutes, vous allez retrouver la pause actu présentée par Akima avec tous les reportages de la rédaction à midi et à 13h, toute l'info locale de la mi-journée, mais aussi l'invité de la semaine et les annonces d'emploi pour les jeunes. Sur ce, c'est le meilleur du son qui continue à vous accompagner sur le 95.5. Excellente journée sur LFM et à la semaine prochaine.
On en parle.
Tension.
Incompréhension.
Addiction.
Évolution.
Explication. On en parle.
L'émission qui décrypte les phénomènes de société au sein de la jeunesse.
Tous les jeudis de